des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Sey en votre compagnie à cette émission des livres pleins les oreilles sur les ondes de Canal M, la radio de Vues et Voix. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, c'est bien vrai ça. Et on sait que c'est parfois, malheureusement, plus douloureusement vrai pour certains que pour d'autres. Tenez, parlez-en à Madame Milena Di Maolo, fille et femme de mafiosi, qui a connu le luxe doré, teinté de sang, de tout ce qu'on peut imaginer. Merci le cinéma quand on évoque le nom de la mafia. Et Maria Mourani, sociologue, criminologue, s'est intéressée, pour ne pas dire passionnée, pour ce destin. Et elle nous offre un bouquin, ma foi, vraiment intéressant sur la destinée de cette femme. Milena Di Maolo, un bouquin qui existe en audio dans notre catalogue de livres audio produits chez Vues et Voix. Je vais m'entretenir avec Madame Mourani d'ici quelques minutes. Également à l'émission, on va faire connaissance avec Storyplayer, une entreprise qui, comme son nom l'indique, est française. C'est une entreprise de livres en ligne, dont certains livres audio, et c'est un catalogue qui est vraiment destiné aux plus jeunes et à ceux qui présentent notamment des difficultés d'apprentissage. On en saura plus avec le fondateur de Storyplayer en seconde partie. Et pour ma part, je vais vous donner l'envie de vous plonger, tiens, je l'espère, dans des littératures tout à fait de saison, soit le Petit Nicolas et du Guillaume Musso, dont le tout dernier livre vient de paraître en audio. Juste avant de m'entretenir avec Maria Mourani, une chanson et un extrait du livre pour lequel je l'accueille, Milena Di Maolo, fille et femme de mafiosi.
Spaghetti de la sauce tomate dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison. Ça fait 20 ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti, j'ai trahi. J'aurais bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs on remplit mon verre et on rigole, on me salit quand je raconte les tours de verre, ma vie à Little Italy. Repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même, en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine. J'ai aidé quelques connaissances dans leur querelle de voisinage, deux, trois corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. Repenti, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes. Je rencontrais leur professeur et prélevais quelques quenotes. Mais aujourd'hui je suis trop vieux, je m'occupe de mes hortensias. C'est étrange, comme ils poussent mieux, qu'ai-je bien pu donc enterrer là? Repentir, j'ai trahi. Dans les fourrés, quelque chose bouge. J'aperçois l'ombre d'un sniper. Sur ma poitrine, une lumière rouge. Je t'attendais, je n'ai pas peur. Qu'on m'allonge sur mon lit, sur mon cœur une fleur d'hortensia. Je vais revoir le Stromboli, je vais oublier la mafia. Repentir, j'ai trahi. Repentir, j'ai trahi.
La force de la mafia demeure sa grande capacité d'adaptation. Elle a su, à travers le temps, s'accommoder des différents bouleversements politiques et économiques. On y entre comme dans les ordres. Selon la famille ou clan, les membres peuvent être soumis à un code d'honneur, à une initiation et à des règles. Le rite d'initiation n'est toutefois pas obligatoire dans toutes les familles. Dans la Cosa Nostra d'Italie, par exemple, les membres doivent prêter une allégeance totale à l'organisation et ce, jusqu'à leur mort. Voici ce qu'en dit un repenti. Un père devait être prêt à étrangler son propre fils si celui-ci transgressait les ordres du chef ou s'il dérangeait la femme ou les filles d'un autre mafieux. La mafia devait passer avant sa propre famille.
C'est la voix de Anne Casabonne que vous venez d'entendre. C'est elle qui a lu ce livre dont je vais parler tout de suite avec Madame Maria Mourani, Milena Di Maolo, femme et fille de mafiosi. Bonjour Madame Mourani.
Bonjour.
Et merci infiniment d'avoir répondu oui, présente à cette entrevue.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup, madame. Je voudrais repréciser que, bon, on vous a connue en politique à un moment donné. Vous avez toujours été, avant tout, je pense, une humaniste, hein, madame Mourani, qui vous amène peut-être aujourd'hui à être en criminologie. Vous avez créé une firme de criminologie qui est basée au Québec. Vous dites d'ailleurs, pour en parler un petit peu, que vous offrez plusieurs types de services. Ça va de la relation d'aide, j'ai vu ça évidemment sur votre site internet, et expert conseil, à l'évaluation et expertise judiciaire, en passant par des conférences et des formations. Mais qui sont vos clients, Madame Mourani?
Autant des victimes que des agresseurs. Donc, dépendamment du service qui est demandé, lorsqu'on me demande, par exemple, des expertises judiciaires, que ce soit pour des évaluations présententielles, prédécisionnelles, etc., là, c'est davantage des personnes qui ont été arrêtées, qui vont passer en cours. Donc, les avocats, les juges ont besoin d'avoir ce genre d'évaluation pour prendre des décisions. Quand ce sont plus en relation d'aide, j'ai constaté que c'est davantage des victimes que je vais avoir dans la relation d'aide. Et bien sûr, quand on parle de formation, d'atelier de prévention, c'est tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde. Et puis c'est aussi des ados, dépendamment des conférences et des ateliers. Parce que je me spécialise bien sûr dans le crime organisé, les gangs de rue, mais aussi le trafic humain. Et l'engagement des jeunes dans des groupes djihadistes. Alors, dépendamment de la thématique de l'atelier ou de la formation, j'ai différentes sortes de publics, en fait. Ça peut être autant des policiers que des parents inquiets, etc. Alors, je m'ennuie pas.
Alors, Madame Mourani, à quel titre avez-vous décidé d'approcher et de collaborer avec Milena Di Maolo, donc cette fille et femme de mafiosi, pour reprendre le titre du livre?
En fait, c'est parfois la vie nous amène avec différentes circonstances à certaines rencontres. Alors moi, je vous dirais qu'à ce moment-là, j'étais dans une réflexion. Ça faisait déjà 2 ans que je réfléchissais à écrire un livre sur la mafia. Et j'avais un contact à l'étranger que je devais rencontrer, mais il était dans un pays un petit peu chaotique. Alors, pour des raisons de sécurité, j'avais pas pu le rencontrer. Mais ça restait dans ma tête et donc j'étais là à y penser, à me dire, bon, ben il faut que j'écris un livre sur la mafia, je suis due pour ça. Et là, je reçois un coup de fil de ma maison d'édition qui me dit, écoute, voilà, on a quelqu'un qui est intéressé à écrire un livre sur sa vie. Mais on a fait plusieurs tentatives. Les gens ont peur,
eh oui.
ont peur de faire ce genre de livre.
Bien sûr.
On a pensé tout de suite à toi parce qu'on sait que t'as pas trop peur.
L'amour à Nice est une fonceuse.
Alors, je me suis dit, c'est quoi la mafia? Ah bah oui, là j'étais très à l'écoute. Je me disais, ah bon, oui, la mafia, d'accord. C'est un drôle d'adon parce que j'y pense. Puis elle me dit une femme. Là, je dis une femme.
Oh. Wow, mais oui.
Une femme, qu'est-ce que ça connaît de la mafia, hein?
Eh
parce
oui.
qu'on sait comment ça fonctionne à l'intérieur. Hein,
oui,
les
juste
femmes,
oui. On va avoir l'occasion d'en reparler d'ailleurs dans cette entrevue-là. Maria Mourani, je commence souvent par le début et je
oui.
vois cette citation qui est de Giovanni Falcone. Est-ce que c'est le juge Falcone? Qui a déclaré que si l'on veut combattre efficacement la mafia, il ne faut pas en faire ni un monstre, ni croire qu'elle est une pieuvre ou un cancer. Il faut savoir qu'elle nous ressemble. Et là, j'ai fait un bond. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai pas compris du tout. Et je vous avouerai que on parlera beaucoup de colère parce que Milena est une femme en colère. Mais là, j'en ai quasiment fait une. Je me suis dit, mais comment peut-on sur quoi peut-on se baser pour faire une quelconque corrélation entre la vie d'un mafioso et par exemple, moi, humble animatrice à la radio, comment vous expliquez-vous cette citation-là?
Alors, vous pouvez le voir de manière micro et macro-sociologique. Quand on le regarde de manière macro-sociologique, on se rend compte que la mafia, dépendamment des pays où elle existe, elle prend la couleur du pays. Elle prend la couleur de la société. Là, tout à l'heure, j'entendais parler de la Cosa Nostra et comment il fallait avoir cette adhérence, cette foi presque à la Cosa Nostra. À Montréal, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez, donc la mafia va, de manière sociologique, donc de manière macro, elle va prendre, disons, les us et coutumes, si vous voulez, des sociétés dans lesquelles elle s'implante. Alors, quand on parle de la famille, des familles siciliennes qui sont chez nous, et c'est pas pareil qu'en Italie, là.
Non,
de la
sûr.
Même manière, quand on parle des MS-13 des États-Unis, c'est pas pareil que les MS-13 du Salvador que j'ai pu rencontrer. Donc,
je
c'est
comprends.
Vraiment le jour et la nuit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, lorsqu'on le regarde de manière plus micro, on se rend compte que d'abord et avant tout, ce sont des êtres humains. Alors, ils ont des sentiments, ils ont des émotions, ils ont des enfants, ils ont des femmes. Donc, quand le juge Falcone dit qu'il faut arrêter de voir ça de manière fantasmagorique, il n'a pas tort.
Mais je comprends.
Parce que ce sont vraiment des individus, ils vont se réveiller le matin, ils vont prendre leur déjeuner, et pour eux, ils s'en vont à la job. Et la job, pour eux, c'est de vendre de la drogue, trafiquer des filles, faire des assassinats. Ça peut nous paraître complètement
oui, incroyable. Certes. Bon. Alors,
mais voyez un petit peu.
Mais absolument. Madame Mourani, je comprends tout ça. Je voudrais, comme le temps file, qu'on fasse vraiment un zoom, un gros plan sur cette jeune femme, Madame Di Maolo. Et vous savez, j'ai une confidence à vous faire. Je ne lis jamais les prologues au début du livre. Je les lis à la fin parce que je veux, moi, m'imprégner seule et je ne veux pas qu'on me guide dans quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Et l'une des premières questions que j'ai trouvées dans ce livre, d'ailleurs, c'est elle qui la pose, ou vous, comme vous préférez, mais comme elle vous a parlé, j'aime mieux dire que c'est elle. Alors, les femmes de la mafia, sont-elles des victimes ou des complices? C'est la grande question de ce livre. Je vous donnerai peut-être mon avis, mais quoi que tout le monde s'en fout, c'est le vôtre qui m'intéresse, Madame Mourani.
Je suis intéressée par le vôtre aussi, parce que c'est un petit peu ça, on questionne le lecteur.
Moi, je vais vous le dire, honnêtement, ce que me prouve ce livre hors de tout doute, c'est que l'amour, c'est parfois complètement tordu. Parce que cette femme-là, elle aime son père, entre autres, comme elle va peut-être un peu moins aimer son mari, mais elle va aimer son père toute sa vie d'un amour inconditionnel. Alors qu'il commet des trucs, enfin je veux dire, pousser sa femme dans l'escalier alors qu'elle est enceinte. Ouais. Il frappe, il va même à un moment donné, il est dans une orgie, elle assiste à ça, il fait ça devant ses gamins, enfin je veux dire, c'est quand même quelque part monstrueux. Et pourtant, jusqu'à sa mort, même dans, quand elle parle de lui à l'église, elle va dire « t'es mon modèle ».
Ouais. Ouais. C'est l'amour haine hein, aussi.
Oui, c'est ça.
Détruit, hein.
C'est ça.
Elle avait comme une grande entreprise, elle allait bien. C'était son bébé, cette entreprise-là de confiture et de marmelade. Et donc lui, voulant peut-être l'aider hein, à devenir plus gros, ben il l'a plutôt détruite. Et ça l'a mise dans une colère, une tristesse.
Ouais,
Oui, c'est de l'amour haine. Hein.
Ouais,
c'est paradoxal.
Ouais.
C'est un amour immense. Et ça, dans la mafia, comme dans la vie de n'importe qui, hein, on peut avoir ce genre de relation-là avec nos enfants, nos maris, nos hommes, etc. Donc, c'est ça la mafia. C'est pas juste...
Oui, mais enfin, Madame Mourani, sauf se faire trahir par son père, parce qu'il peut pas mettre de l'alcool là-dedans, et il dit à sa fille, bah tiens, je vais te permettre de pouvoir acheter ça juste parce qu'elle peut faire rentrer l'alcool. C'est de la haute trahison, quand même. Je suis pas...
Ah ouais.
Bon, j'en ai eu des problèmes avec ma famille, mais ça... Non, mais bon, ok. Alors vous,
En même temps, on a des familles, enfin moi là je parle en tant que criminologue, ce que j'ai pu avoir comme personne dans ma pratique, vous avez des familles qui ne sont pas dans la mafia, mais qui sont tout aussi poquées, disons-le comme ça,
qui sont
tout aussi poquées, et que l'on ne s'intéressera pas forcément, et c'est ce que j'ai dit à Madame Di Maolo, j'ai dit si tu n'étais pas la fille et la femme d'un mafiosi, et même la filleule d'un grand chef de la mafia, ton histoire aurait passé inaperçue. Carrément, parce que des enfants qui ont vécu ce qu'elle a vécu, ce harcèlement, des pères questionnables, des mères alcooliques, malades et tout, il y en a des tonnes, on se comprend,
il y en a
dans la vie de tous les jours.
C'est vrai.
Et là, la différence, c'était ça. Je me questionnais, moi, beaucoup, et je reviens à la question, sont-elles des complices
ou
sont-elles des victimes
Ouais. Alors vous en dites... Ouais, c'est ça.
C'est les deux.
Au début, ce sont des victimes et ensuite, elles deviennent fatalement des complices parce qu'une femme ne choisit pas la mafia de la même façon qu'on ne choisit pas ses parents et sa famille. Mais est-ce qu'une femme peut choisir de quitter la mafia
Oui, bien sûr, parce que veut pas, Milena, c'est ce qu'elle a fait.
Oui.
Malgré que c'est sa famille, elle a trouvé le moyen de vivre sans la mafia. Mais pendant longtemps, elle a vécu des revenus de la mafia, on se comprend. Donc c'est là le complice, parce que son mari, c'était un gars aussi de la mafia, son père aussi, elle avait que ça, c'était ça son entourage. Donc au fond, l'argent qui rentre, l'argent que je dépense, qu'elle va dépenser, et elle parle de cette opulence monétaire, ben c'est l'argent de la mafia, on se comprend.
Ah bah oui, c'est certain, oui.
Donc au fond, c'est ça, c'est tout le temps ça, c'est des victimes et... des complices.
Et des complices.
Elles sont poignées comme
ça. Mais
dans
c'est terrible système. De vivre avec ça. Ça doit être un. D'ailleurs, je pensais à ses propres enfants parce qu'elle en a eu deux. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus? Parce que je veux dire, c'est de la graine de mafiosi.
Non, justement. Parce que elle, ce qu'elle a voulu, c'est justement ça.
Bon.
Que elle voulait faire en sorte que ses enfants ne grandissent pas dans ça. Elle voulait que ses enfants puissent avoir une vie normale. Même si leur nom, malheureusement, leur nom de famille est lourd à porter. C'est ce qu'elle dit aussi. Hein. Autant le nom de famille, quand il est très notoire, fait en sorte que la personne vive ça dans son enfance. Mais en même temps, elle me dit, le monde a changé. Avant, de son temps à elle, lorsqu'elle allait à l'école, elle était harcelée parce qu'elle elle s'appelait Di Maolo. Mais maintenant, ces enfants, au contraire, on les regarde avec admiration parce qu'ils s'appellent Cotroni.
C'est fou.
Comme on est, donc on n'est plus dans le même monde. Hein,
c'est vrai. On va s'interrompre juste une petite minute, le temps qu'on réentende la voix chaleureuse de Anne Casabonne dans un autre extrait ce livre dont nous parlons, Milena Di Maolo, femme et fille de mafiosi de Maria Mourani que j'accueille.
À Montréal, l'intégration des Picciotti, jeunes recrues soldats, ne se faisait pas comme en Italie. les nouveaux devaient d'abord faire leurs preuves pendant au moins 5 ans avant d'être admis comme membres réguliers. Cette règle était non négociable. Paolo Violi indiquait ainsi indirectement que la mafia montréalaise n'était pas à la solde de la mafia d'Italie. Cette tradition autonomiste ne s'est pas essoufflée au fil du temps, même si, dans les faits, Montréal a longtemps été tributaire des décisions prises par les clans new-yorkais. Il n'en demeure pas moins que la mafia montréalaise a su prendre sa place en Amérique du Nord. Cette intégration territoriale s'est notamment cristallisée par les mariages. Plusieurs mafiosi montréalais ne se sont pas gênés pour épouser des Québécoises. Ce mélange des cultures semble avoir contribué au fil des ans à une mise à distance du traditionnalisme mafieux italien, particulièrement en ce qui concerne les relations hommes-femmes. En Italie, il serait par exemple impensable que les enfants de mafioso assistent au mariage en seconde noce de leur père. Ces différences de mentalité et d'habitude ont en partie contribué à l'autonomie des clans mafieux d'Amérique du Nord. La mafia montréalaise a donc ses propres règles, même si elle semble manquer cruellement de direction depuis la mort de Vito Rizzuto.
Alors, on apprend beaucoup de choses, bon, sur cette femme, mais sur la mafia aussi. D'ailleurs, je voudrais vous remercier, Maria Mourani, parce que pour émailler les propos de Milena Di Maolo, vous avez eu la judicieuse idée de nous guider dans l'organigramme de la mafia montréalaise. Parce que, de vous à moi... Entre les Cotroni, les Rizzuto, les Di Maolo et autres Saputo, on est un peu perdu et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Une de mes grandes surprises est lorsque vous abordez le thème de l'homosexualité dans la mafia en disant que oui, il y en a. Alors ça, vraiment, je suis tombée en bas de ma chaise.
Ah oui, il y en a et puis je n'ai pas pu nommer parce que j'aurais sûrement été poursuivie par les enfants et les petits-enfants, mais j'ai eu des preuves... et des témoignages très, très, très fiables me disant qu'il y avait même des hauts placés, là, qui
ouais,
étaient
okay.
des homosexuels cachés, bien sûr, ils sont mariés, ils ont des enfants, on ne le sait pas. Et donc, l'homosexualité est un tabou immense dans la mafia, mais aussi dans le crime organisé en général, hein,
oui,
dans
oui,
tout.
Oui.
Parce que c'est un milieu très macho, où la femme est considérée comme une marchandise,
oh, c'est épouvantable.
Ou comme une mère, ou comme une sœur. Oui. Hein, c'est toujours cette
oui.
relation de domination. Et donc, au fond, les imaginer juste dire qu'ils sont homosexuels,
oh oui, non,
c'est comme la
incroyable.
Pire, c'est la pire des choses pour eux. Alors,
comment,
très caché.
Comment peut-on expliquer qu'une femme comme la maman de Milena soit resté 50 ans auprès de cet homme, qu'il l'a battu devant ses mômes, qui en tout cas, ben, il n'y a pas eu que ça, je veux dire, apparemment, il devait y avoir un grand, grand attachement entre eux, c'est écrit, c'est dit,
ouais.
mais quand même, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner, criblé de balles, elle a toujours été son...
Il était là, ouais.
Elle a toujours été là, c'est insensé, hein, c'est fou.
Mais c'est un petit peu la relation des femmes qui vivent dans un contexte de violence conjugale, hein. On le
ouais.
voit... beaucoup de femmes
mais
vont
oui,
rester
c'est ce que je me suis
et
dit,
parfois vont se faire assassiner.
D'ailleurs, elle a failli. Hein.
Elle a failli, tout à fait.
Elle s'est fait renverser, c'est ça, par une voiture et on a appris plus tard que finalement, c'était...
Peut-être.
Que... une tentative
puis,
d'assassinat. Bon.
Il y a eu aussi la fois où elle était enceinte puis qu'il l'avait poussée.
Poussée dans les...
Elle aurait pu mourir hein,
oui.
aussi. Donc, vous voyez, donc c'est une relation encore amour-haine.
Oui.
Ce que Milena me disait aussi, que l'argent est important. Hein.
Ah
c'est
oui.
quand même une femme qui a vécu dans l'opulence à partir du moment où elle était avec lui. Et donc, plus une femme se retrouve dans un contexte de violence conjugale, et on constate d'ailleurs que les femmes qui viennent de milieux aisés, où elles n'ont pas de travail, où c'est le mari qui fournit tout, c'est encore plus difficile
ouais.
qu'une femme qui a une certaine autonomie financière de quitter un homme violent. Encore plus difficile.
Ouais,
mais
vrai.
Au-delà de tout ça, vous avez toute la dimension de domination psychologique et physique.
Mais
parce
non.
qu'au fond, c'est pas un homme ordinaire. S'il n'est pas content, il peut te tuer.
Ah, mais d'ailleurs, il le dit à un moment donné à sa propre fille. Ça, je n'en revenais pas quand il lui dit « Je t'ai donné la vie, mais n'oublie pas que je peux te l'enlever. »
Oh oui, tout à fait. Fait. Donc, vous le voyez, c'est un
c'est
homme...
Démon.
Et il ne faut pas oublier aussi que c'est un homme qui était très généreux, c'est un homme qui
oui.
était très charismatique, c'est un homme qui était capable de te parler et de t'embobiner. Hein.
Mm-hmm.
Donc,
oui, un charmeur.
Il était capable de te charmer.
Oui,
là. Alors, faut pas oublier ça. Donc, vous voyez, donc, c'est tout le temps les deux faces de la médaille.
Bien sûr.
Il pouvait être très dur, et il pouvait être très câlin. Donc, sa fille, on avait une admiration, amour immense.
On va bientôt se quitter, Maria Mourani. Je voudrais... elle n'a pas eu peur du tout, parce qu'après tout, elle nous révèle quand même beaucoup de choses. Vous aussi, d'ailleurs. Vous n'avez pas eu peur, ni l'une ni l'autre, des conséquences de ce livre-là?
Mais je vous dirais, de ma part, non. Et de sa part, ça a pris beaucoup de courage, parce que c'était pas juste le fait d'avoir peur de représailles pour elle, c'était d'affronter tous les traumas psychologiques qu'elle pouvait avoir.
Je comprends.
Et on a quand même eu presque 53 heures d'entrevue, et puis elle me le dit souvent, elle me disait, ben écoute, grâce à toi, j'ai eu l'impression d'avoir une psy avec moi, et donc ça m'a permis de passer à travers une colère que je garde constamment. Et ça, je pense, ça l'a beaucoup aidée. Et moi, j'ai fait en sorte qu'on écrit quelque chose qui ne dénigre personne, qui ne manque de respect, mais qui amène la vérité, mais de manière correcte. Donc, on ne peut pas nous reprocher dans ce livre-là d'avoir, disons, d'avoir été irrespectueuse. Parce que dans la mafia, c'est important de le respect, l'honneur, etc. Donc, on a dit les faits tels qu'ils sont, sans les exagérer, et en faisant en sorte de ne pas toucher l'honneur de personne. Mais veux pas, si t'as tué, t'as tué. Et si t'as
bien
fait
sûr.
Un trafic de troc... Donc, on a été à ce niveau-là. Donc, ce qui fait qu'au fond, elle, par rapport à tous les noms qu'on a pu nommer, elle n'a pas eu vraiment de grandes répercussions. Il n'y a pas eu de répercussions de ces gens-là, même de son ex-mari. Donc, au fond, même lui... en lisant le livre, a dit, écoute, c'est vrai, c'est ce que
Franck
tu as compris, c'est vrai, puis c'est correct. Donc, sur ce point, ça va. Quant à moi, je vous dirais, personnellement, je suis toujours partie du principe que dans mes livres, que ce soit celui des gangs, ou que celui que j'ai écrit récemment, ou celui qui s'en vient sur le djihad, je fais toujours en sorte qu'il y ait une dimension qui est celle du respect.
Parce
que j'ai constaté dans ma pratique... dans le milieu criminel, le respect est un élément fort important. Alors, même si ils ne vont pas vous aimer, ils vont vous respecter. À partir du moment où vous les respectez. Alors, c'est un peu ma ligne de conduite qui fait que jusqu'à présent, j'ai même pu aller rencontrer les maras du Salvador et je suis revenue vivante.
Bon, et on en est très content, Maria Mourani, merci beaucoup. Juste les premiers mots de ce livre de Milena, où elle dit « J'ai le sentiment de trahir mon père » et les derniers, c'est « Pardon pour ce livre ». Et bravo, vraiment, c'est un témoignage que je recommande à tout le monde, soit de lire sur papier, soit d'écouter en audio en allant sur notre catalogue livreaudio.vusezvoix.com. Maria Mourani, merci pour votre travail.
Merci à vous, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Des livres plein les oreilles, seconde partie. C'est un site qui est né en France, mais comme c'est sur le net, eh bien c'est accessible absolument au monde entier. Thomas Salomon a fondé Storyplayer, qui est un site de littérature enfantine qu'on peut découvrir sous toutes ses formes, papier, numérique ou audio. Vous me connaissez, j'ai voulu en savoir plus pour vous, bien sûr. Alors nous allons joindre dans quelques minutes Monsieur Salomon en Europe, dans la vieille France. Ensuite, eh bien, j'ai vraiment eu envie de vous suggérer des lectures plutôt légères, plutôt drôles, intrigantes, idéales pour un été. Connaissez-vous le petit Nicolas ? Ah, le petit Nicolas. D'abord une BD, ensuite deux films, Oui, c'est ça, deux films. Et maintenant, plusieurs livres audio. Alors j'avais envie aussi de vous faire entendre quelques extraits de ce petit Nicolas-là. Et puis, on va aussi aller à la découverte de Guillaume Musso. Écoutez, Guillaume Musso, M-U-2-S-O, c'est l'auteur apparemment le plus lu dans l'Hexagone. Il doit bien y avoir une bonne raison pour cela. On va aller voir ensemble avec notamment un extrait de son dernier bouquin, puisqu'il est déjà enregistré et disponible sur les plateformes de livres audio. Alors vous me suivez pour l'instant, on s'en va vers la littérature jeunesse avec Storyplayer. C'est absolument délicieux, ce livre d'images qui m'amène à parler avec Thomas Salomon, le fondateur, il va nous le dire, de Story Player en France. Bonjour Monsieur Salomon, Thomas.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir à cette émission de Livres plein les oreilles qui, comme je vous l'écrivais lorsque j'ai pris contact avec vous, s'intéresse d'abord et avant tout à la littérature audio, donc à celle qui s'écoute. Et j'avais envie de vous parler parce que la littérature audio occupe un très très joli espace sur ce site littéraire consacré à des œuvres pour les jeunes. Mais avant d'en arriver là, je voudrais savoir d'où ça vous est venu cette idée de Storyplay.
Alors, ça m'est venu parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais pas un très grand lecteur, mais j'avais des disques avec la petite clochette pour au moment où il fallait tourner la page. Et j'ai passé des heures et des heures dans ma chambre à écouter ces disques, Pierre et Loulou et d'autres. Et donc voilà, je me suis dit que à partir de ça, on pouvait en faire une version numérique. Et donc j'ai eu cette idée de prendre des albums jeunesse, de les mettre sous format numérique, les mettre à disposition des utilisateurs, et puis de jouer avec l'audio dessus. D'une part, en donnant la possibilité aux gens de devenir narrateur, puisque vous pouvez enregistrer votre voix.
Oui, j'ai vu ça. On peut enregistrer sa voix. Waouh.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est les parents ou les grands-parents qui peuvent s'enregistrer pour leur fils, leur fille ou leurs petits-enfants. On peut partager à distance les narrations.
Quel bel héritage. Je sais pas, je voudrais pas parler de malheur, mais je pense c'est quand même fantastique. Par exemple, quelques années après le décès de quelqu'un, de pouvoir conserver la voix de mamie, par exemple, en train de me lire Blanche-Neige. Quelle idée fantastique.
Quelle idée. C'est vrai que c'était pas l'idée de départ.
Non, j'imagine. Mais ça vient de me passer par la tête, c'est vrai.
Ouais. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens à qui j'ai montré Story Player qui l'ont utilisé, qui ont pensé à ça et. Parce que c'est vrai que derrière la voix, il y a une intensité émotionnelle importante.
Oh que oui, évidemment. Monsieur. Nous qui sommes producteurs de livres audio ici, on en sait quelque chose. Alors, c'est clairement indiqué sur le site internet dès qu'on y arrive. Alors, Story Player, comme ça se dit et comme ça se prononce avec en bon français, Story Player. Donc, Storyplayr. On arrive tout de suite sur la page d'accueil qui nous dit que Story Player, ça a pour ambition de faire découvrir à vos enfants, à nos enfants, le plaisir de la lecture. Vous avez l'impression que c'est un manque, c'est un besoin. On ne fait plus la lecture aux enfants.
Oh, je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est un manque. C'est sûr que les choses sont en train de changer. Bien sûr, les écrans et ce qu'on trouve sur les écrans, c'est pas forcément de la lecture. Donc, écoutez, je ne sais pas si.
Oui,
c'est
mais la lecture à haute voix. Est-ce qu'on raconte encore? Oui.
Oh,
oui,
bah, je pense que oui. Je pense quand même que les parents continuent à raconter des histoires. Oui.
Mais ça va les aider encore plus parce qu'il y a des mômes qui sont pas capables même d'ouvrir un livre. Moi, je suis sûre que un site comme le vôtre doit les inciter à ouvrir des bouquins ou à en écouter, non?
Ouais, bah c'est bien le but. Après, le but, c'est bien de. L'idée, c'est que les enfants, on sait qu'ils sont, attirés par les écrans, ils passent beaucoup de temps devant les écrans, et on a envie de montrer que, y compris sur les écrans, il y avait autre chose que du jeu vidéo ou des dessins animés ou autre chose. On pouvait aussi avoir de la lecture sur les écrans. La lecture, c'est très bien sur papier, ça continuera sur papier, évidemment. Mais on peut aussi l'avoir sur écran. Et de cette manière-là, effectivement, des enfants qui n'ont pas forcément beaucoup de livres chez eux ou qui n'ont pas été forcément redirigés vers des livres peuvent découvrir la lecture à travers Story Player.
C'est bien ça l'idée. On va en écouter un extrait que je suis allée joyeusement repiquer sur votre site. Okay. Et justement, je voudrais d'abord bien faire comprendre aux gens que l'enfant peut entendre la voix de la narratrice, qui est d'ailleurs très bonne, mais en même temps, il y a une illustration et il y a le texte. Donc j'imagine aussi qu'au niveau de l'apprentissage du français, par exemple, ça doit aider beaucoup, ça.
Hein? Alors,
on écoute l'extrait.
Ce matin, Au royaume libre et ri, le prince Tristan est soucieux. Avachi sur son trône et l'air accablé, il écoute les plaintes des habitants. Je l'ai posé sur ma table de nuit et ce matin, plus de livres! Lance une habitante en pyjama et coiffée d'un bonnet de nuit rose. Je voulais prendre mon dictionnaire pour chercher le mot « serponnette », mais tous mes livres ont disparu, s'exclame un écolier. Depuis plusieurs jours, les livres du royaume sont introuvables. Le livre de la grenouille maladroite, l'album du chat qui barbote, et même le livre préféré du prince, le lion valeureux, ont disparu. La bibliothécaire dépoussière des étagères vides. Le libraire, embêté, ne reçoit plus de commandes. La maîtresse ne peut plus faire la leçon et les compteurs s'emberlificotent sans leur compte. « Nos livres » hurlent-ils tous au prince d'une seule voix. « Où sont nos livres ?»« Quel malheur !» s'exclame le prince. Les habitants fouillent toutes les rues du royaume, explorent toutes les maisons, les niches, les chatières et les nids. Les grands déracinent les arbres et retournent la terre pendant que les petits inspectent les trous de marmottes, de souris et de lapins. Nous ne les retrouverons jamais. Adieu mes délicieuses recettes de choux à la crème, de tarte aux fraises des bois et de religieuses chocolat, lance la boulangère hystérique.
Et pour en savoir plus, eh bien, il va falloir aller sur votre site Story Player, ouais. Thomas Salomon. Vous faites aussi en sorte que ce site de littérature-là pour la jeunesse soit aussi une plateforme d'aide à l'apprentissage pour les enfants qui sont en déficit d'attention, entre autres, et tout ça.
Oui, absolument. Donc vraiment, on veut tirer tout le parti possible du numérique, donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire on donne la possibilité d'afficher le texte dans différentes polices, différentes tailles, différentes couleurs. On a des polices spécifiques pour les enfants dyslexiques qui vont répondre à certaines dyslexies, pas toutes. Et puis on a le mariage, et ça c'est même le plus important sans doute, c'est le fait d'avoir le mariage de l'illustration, de l'audio et du texte, ouais. Que l'enfant ait les trois formes, je dirais, de l'histoire sous les yeux et puisse faire le lien entre le son des mots, la forme des mots et puis les illustrations pour l'aider à comprendre. On a une fonctionnalité qu'on appelle nous le karaoké inversé où les mots s'allument en surbrillance, en synchronisation avec les mots qui sont dits par le compteur, donc ça aide l'enfant à faire le rapport entre le son et les mots. Et puis on a une aide à la prononciation vocale où dans l'autre sens, il peut cliquer sur les mots et les entendre. Donc c'est vraiment essayer de tirer parti de tout ce qui est possible. L'album jeunesse, il est utilisé par les enseignants, à la maternelle, en primaire, comme un outil d'accompagnement de la lecture. Bah là, on fait un peu la même chose, mais à l'écran. On n'est pas une méthode de lecture.
Non,
outil de méthode, mais c'est un outil qui va accompagner les enfants dans l'apprentissage, et y compris les enfants qui peuvent avoir des difficultés.
Vous avez combien de livres
Sans que ce soit, sans singulariser l'enfant qui va être dyslexique. C'est pas une application.
Non, je comprends.
C'est pour tout le monde, et puis il y a des fonctionnalités qui peuvent les aider, mais ils peuvent partager le même outil que tous les autres.
Il y a combien de bouquins à peu près disponibles
là,
dans ce catalogue?
On a 1500 livres, dont 1200 en français. On est quasiment, c'est la grosse majorité en français.
En français, mais aussi il y en a en langue étrangère, donc c'est intéressant
pour
apprendre.
Tout à fait. On en a quelques centaines en anglais. Et puis là, on va intégrer des histoires en arabe, bilingue en arabe, raconter en arabe. Ça va être très, très beau. Et puis nous, notre but, c'est d'intégrer aussi le plus de langues possible.
Bien sûr. Ben écoutez, on va se laisser là-dessus. Je voudrais donc, si les gens veulent vous trouver, ils font simplement Story Player en un seul mot sur n'importe quel moteur de recherche. Écoutez, je trouve que c'est un exemple à suivre. Et quelle bonne idée que ce karaoké pour apprendre. Une chose que je voulais aussi vous donner. Une petite minute encore. Vous donnez des formations en lecture à haute voix pour inciter des gens aussi à faire la lecture à leurs enfants ou pour animer comme des ateliers?
Alors, c'est plus parce que, oui, en fait, nous, on s'adresse aux familles,
oui.
aux écoles. On
oui.
a des abonnements spéciaux pour les écoles, etc. Et puis aussi aux médiathèques. Et notamment dans les médiathèques, Story Player est utilisé soit pour faire la lecture du conte numérique, donc où la bibliothécaire va raconter l'histoire, ou pour organiser des ateliers aussi de lecture à voix haute avec les enfants, où on fait lire les enfants. Et voilà, et donc on propose des formations non seulement à l'utilisation de l'outil Story Player pour organiser ces ateliers, mais aussi, puisqu'on a des conteuses qui travaillent pour nous et qui sont très pros, elles proposent aussi des formations de lecture à voix haute, tout simplement.
Waouh! Eh bien, je suis jalouse, voilà. Je voulais vous le dire et vraiment bravo à toute l'équipe, à vous Thomas, ouais. mais à toute l'équipe aussi de Story Player, en espérant que nos auditeurs auront la curiosité d'aller sur ce site et peut-être même de vous commander des bouquins. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite et j'ai été très
Merci
heureuse
beaucoup.
De vous parler. Ben, je vous en prie, passez une belle fin de journée, ben, une bonne nuit parce que je pense que pour vous, ça commence à être le soir.
Ouais.
Salut.
Merci en tout cas.
De rien. Thomas, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Sympa cette musique-là, hein. Ça fait très estival. C'est la musique du film Le Petit Nicolas, musique signée Klaus Badelt, parce qu'on va parler du Petit Nicolas. Bon, c'est encore une création française, mais si tu reparais maintenant avec les sites internet, avec la télévision, avec le cinéma, de toute façon, c'est devenu complètement international et francophone. D'où vient Le Petit Nicolas ? Eh bien, figurez-vous qu'à la fin des années 50, c'est une époque où la France connaît, ben, une bonne partie de l'Europe connaît une espèce d'amélioration sans précédent en matière de mode de vie. On commence à voir pointer les années 60 avec l'espèce de révolution industrielle qui va avec toutes ces inventions qui arrivent. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses qui sont là, l'urbanisation et de la société, je veux dire, tout ça. Et il y a une classe qui va émerger à cette époque-là qui est celle qu'on appelle la classe moyenne. Alors, de cette classe moyenne va nous arriver un héros tout petit qui va un petit peu incarner ce changement-là. C'est le petit Nicolas. Le petit Nicolas qui a été créé par un jeune dessinateur à ce moment-là complètement inconnu, qui est Sampé, que maintenant, qui est devenu une énorme vedette. Si vous lisez Paris Match, il a fait les beaux jours. Je sais plus s'il est décédé, Sampé, ou pas. Mais en tout cas, il a fait les beaux jours de Paris Match très longtemps, entre autres. Et c'est en 54 que Sampé a prêté vie à ce, pour la première fois en BD à ce personnage. Mais Sampé, il n'est pas forcément très à l'aise avec la forme de la bande dessinée. Donc, un jour, il en parle, il rencontre et il en parle à René Goscinny, qui s'est finalement associé au projet en 1956. Et donc, c'est avec Goscinny que Sampé va créer ce petit écolier dans les années 59. Donc, ça date de là, c'est sa vraie naissance. Un personnage avec ses copains, avec ses parents, avec ses professeurs ou surveillants, dans le fameux bouillon. Quand on dit « attention, le bouillon », c'était un des surveillants qui arrivait. Alors, ils prennent tous leurs traits et ils vont devenir, on le sait, à partir de là, immensément célèbres. À partir de 1960, il y a des courtes histoires qui sont apparues dans des revues françaises comme Pilote ou encore dans des quotidiens comme Sud-Ouest. Et ensuite, on les a réunis sous des albums, on les a même édités en livres de poche. Les 5 tomes qu'on dit canoniques sortis à cette époque vont d'ailleurs traverser toutes les générations. Il y avait le petit Nicolas, les récrits du petit Nicolas, les vacances du petit Nicolas, le petit Nicolas et les copains, et le petit Nicolas a des ennuis. Le petit Nicolas a même son site internet où vous pouvez vous procurer tous ces bouquins-là. C'est simplement www.petitnicolas.com. On nous présente toutes les histoires, non seulement en français, mais en français provincial, c'est-à-dire qu'il y a un livre, il y a une histoire du petit Nicolas en Corse avec des expressions corses, avec les accents corses. Et c'est vrai pareil pour le Limousin, pour le Breton, pour le Provençal, pour le Gascon, pour l'Auvergnat. Il y a du petit Nicolas en arabe, il y a du petit Nicolas. C'est vraiment, si vous voulez vous faire l'oreille à tous les accents qu'on peut entendre dans l'Hexagone, pointez-vous sur le site petitnicolas.com. Et le petit Nicolas, c'est également 2 films, celui sorti en 2009, qui s'appelait simplement Le petit Nicolas, de Laurent Tirard, avec Maxime Godard dans le rôle du gamin, Valérie Lemercier et Cadmerad qui faisait le père. Et puis il y a eu les vacances du petit Nicolas en 2014, on prend les mêmes et on recommence. Et enfin, Le petit Nicolas est en livre audio, et il y en a pas mal en plus, lu par des comédiens extraordinaires. Je vous laisse juge de cela, Benoît Poulvorde, Alain Chabat et Édouard Baer. On écoute un montage de ces petits Nicolas-là.
Alors moi, je me suis mis à pleurer, parce que c'est vrai ça, c'est pas drôle d'aller à une mer où il n'y a pas de poissons, alors que pas loin, il y a les Atlantiques où c'en est plein. Maman a laissé son tricot, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit qu'il fallait pas être triste à cause des vilains poissons et que je serais bien content tous les matins quand je verrais la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. C'est-à-dire, a expliqué papa, que la mer, on ne la voit pas de la villa. Mais elle n'est pas très loin, à 2 kilomètres.
Tu lui veux sur la figure mes grosses mains pleines de beurre? Il a demandé à Clotaire. Tu peux pas me taper dessus, a dit Clotaire, j'ai des lunettes, l'air... Eh ben, a dit Alceste, enlève-les tes lunettes. Non, monsieur, a dit Clotaire. Ah, les premiers de la classe, a dit Alceste, vous êtes tous les mêmes, des lâches. Je suis un lâche, moi, a crié Clotaire. Ouais, monsieur, puisque tu portes des lunettes, a crié Alceste. Eh ben, on va voir qui est un lâche, a crié Clotaire en enlevant ses lunettes. Ils étaient drôlement furieux tous les deux, mais ils n'ont pas pu se battre parce que le bouillon est arrivé en courant.
Dis, papa, j'ai dit. Tais-toi, Nicolas, a crié papa, laisse-moi écouter la radio.
Monsieur,
a dit le monsieur de la radio.
Pour 1 024 000 anciens francs, un personnage rendu célèbre par un roman est né à Lupiac. Qui était-il? Quelles sont ses dates de naissance et de mort? Où est-il mort?
Dis, papa, pour les sous, je te promets que je travaillerai drôlement bien à l'école, surtout en grammaire, j'ai dit. Silence, Nicolas, a crié papa, je veux entendre la réponse. Mais c'est Charles de Batz d'Artagnan, j'ai dit. Il est né à Lupiac, dans le Gers, il est mort à Maastricht, 1611-1673, alors pour les sous, tu me les donnes? Nicolas, a crié papa, tu es insupportable, tu m'as empêché d'entendre...
Oui, monsieur, bravo, monsieur,
a crié le monsieur de la radio.
Il s'agit en effet de Charles de Batz, seigneur d'Artagnan, né à Lupiac dans le Gers et mort à Maastricht 1611-1673.
Le petit Nicolas en audio, ne manquez pas ça. Également en audio dans l'univers de Guillaume Musso, La vie est un roman. C'est lu par Clara Brachtmann. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous dit, entre autres, dans Anne Michelet, qui est une journaliste, qu'il est un ensorceleur qui fait surgir l'impossible dans la vie de ses personnages au moment où l'on ne s'y attend pas. Un jour d'avril, ma fille de 3 ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. C'est ainsi que débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient closes. Les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion. L'enquête de police n'a rien donné. Extrait.
La fille dans le labyrinthe. L'histoire qui se déroule sous notre nez devrait être la plus nette, et c'est pourtant la plus trouble. Julian Barnes. Brooklyn, automne 2010. Il y a 6 mois, le 12 avril 2010, ma fille de 3 ans, Carrie Conway, m'a été enlevée, alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Williamsburg. C'était un bel après-midi. Clair et ensoleillé, comme New York en offre beaucoup au printemps. Fidèle à mes habitudes, j'étais allée à pied chercher Carrie à son école, la Montessori School de McCarran Park. Sur le chemin du retour, nous nous étions arrêtés chez Marcello's pour acheter une compote et un cannoli au citron que Carrie avait dévoré tout en gambadant gaiement à côté de sa poussette. À notre arrivée chez nous, dans le lobby du Lancaster Building, au numéro 396 de Berry Street, notre nouveau gardien, Trevor Fuller Jones, il avait été embauché moins de 3 semaines auparavant, a donné à Carrie une sucette au miel et au sésame, en lui faisant promettre de ne pas la manger tout de suite. Puis il lui a dit combien elle était chanceuse d'avoir une maman romancière, car elle devait lui raconter de belles histoires le soir dans son lit. Je lui ai fait remarquer en riant que, pour dire une chose pareille, il n'avait dû ouvrir aucun de mes romans, ce dont il a convenu. « C'est vrai, je n'ai pas le temps de lire, Madame Conway, » m'a-t-il affirmé. « Vous ne prenez pas le temps de lire, Trevor. Ce n'est pas pareil. » Lui ai-je répondu alors que les portes de l'ascenseur se refermaient.
Passionnant, vous allez vous régaler, a-t-on dit dans une émission de radio à France Bleu. C'était Arnold Derek qui avait dit cela. Voilà, je vous quitte là-dessus avec La vie est un roman et cet extrait de Guillaume Musso. C'était Clotilde Seille. L'émission des livres plein les oreilles. Merci à mes invités, Maria Mourani et Thomas Salomon. Et puis merci à Maurice Bolduc qui était en régie aujourd'hui. Passez une belle semaine, mes amis, de bonnes lectures par les oreilles.